Bonjour Antoine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler du galop et ça tombe bien car toi tu es très engagée pour la promotion du galop mais aussi du breton sur le territoire. Alors j'imagine que nos locaux te sont familiers car tu as été membre de Kejaden, qui est une asso étudiante qu'on connaît bien ici puisque ça promouvoit la culture bretonne et langue bretonne à Rennes 2. Ton engagement il se traduit au quotidien par tes études et aussi par ton travail puisque actuellement tu es en master de breton. Et tu travailles aussi au Cercle Celtique de Rennes comme animateur culturel et linguistique, où tu donnes des cours dans ces deux langues. Alors, peux-tu nous dire quel lien tu entretiens avec ces deux langues, et en particulier avec le galop, puisqu'ici on est en territoire galop, et est-ce que ton intérêt pour les langues de Bretagne remonte à un moment particulier?
Bah, ma relation avec les deux langues est déjà très 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 forte quand même. Enfin, c'est les langues que j'utilise tous les jours au quotidien dans mes études, dans mon travail et dans ma vie personnelle aussi. Le breton déjà, parce que bah, le breton c'est une langue qu'on parle en Bretagne, une langue qui est très présente dans le milieu associatif rennais, au milieu breton en tout cas à Rennes. Et le galop tout simplement aussi parce que c'est ma langue maternelle en parallèle avec le français. Mes parents m'ont élevé dans un français très teinté par le galop. Tous mes voisins, mes voisines, tout mon entourage quand j'étais petit parlait galop. Et c'est aussi comme ça que j'y suis venu. Et aujourd'hui, ce sont donc ouais, les deux langues vraiment dans lesquelles je fais ma vie, quoi.
Ok, bah c'est top. Et du coup, comment est née ta volonté de t'engager dans ces langues, en particulier pardon, pour le galop? Est-ce que c'était naturel ou est-ce que c'est venu progressivement?
Bah, disons que j'ai commencé d'abord à m'intéresser au breton, avant de m'intéresser à la langue que je parlais déjà, le galop. Mais c'est vraiment, ouais, à la base, j'ai commencé aussi, en parallèle du breton, à m'intéresser à l'histoire de la Bretagne, à m'intéresser aussi à l'histoire en général des cultures et des langues minorisées. Donc voilà, après ça, c'est venu plus ou moins naturellement. On a des langues ici qu'il faut défendre, il y a une diversité linguistique qui est énorme. D'autant plus à Rennes où on parle pas que galop et breton, on parle aussi des centaines d'autres langues peut-être. Donc c'est des choses qui, à mon sens, il faut défendre contre l'uniformalisation du français, si on peut dire. Et c'est pour moi, enfin ouais, défendre la langue de la maison aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est une langue, enfin c'est vraiment une langue dans laquelle je vis tous mes sentiments aussi. Quand je rigole dans ma tête, c'est en galop. Quand je pleure dans ma tête, c'est en galop. Donc pourquoi j'aurais pas le droit de la parler en dehors? Pourquoi j'aurais pas le droit de l'avoir écrit sur des panneaux, de l'enseigner, de l'apprendre aussi en cours? Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très important à mon sens.
Et on sait que beaucoup de choses sont mises en œuvre depuis plusieurs années pour la langue bretonne, avec la création des écoles Diwan en 70, l'Office public de la langue bretonne. Mais pour le galop, du coup, les choses mettent un peu plus de temps à se mettre en place, puisque l'Institut du galop s'est créé en 2017 à peu près. Et voilà, le galop, c'est une langue qui est classée en danger par l'UNESCO. Donc, est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que c'est lié au fait que le galop a longtemps été considéré comme du mauvais français, du patois? Et selon toi, comment se porte le galop aujourd'hui vis-à-vis du nombre de locuteurs, etc.
Ben, en fait, le galop, en fait, le fait que ce soit proche du français et considéré comme un mauvais français, ça peut être à la fois une chance comme une malchance. Ça va être une malchance dans la mesure où justement, faut bien parler français, donc faut abandonner toute trace gallophone dans son français pour pouvoir parler le plus proprement possible et tout ça. Mais quand même, le fait que ce soit proche du français, ça a permis aussi sa transmission. Aujourd'hui, on est à d'après le dernier sondage de TMO et de la région Bretagne, on est à environ 200 000 locuteurs du galop. 200 000 locuteurs et locutrices du galop. Donc, c'est une langue qui, malgré tout, ne se maintient pas, qui est quand même en déclin, comme la plupart des langues minorisées aujourd'hui. Le fait qu'on ne la trouve pas forcément dans l'enseignement immersif, forcément, ça pénalise aussi beaucoup ce nombre de locuteurs. Il y a quand même plusieurs initiatives qui sont prises en ce moment. Déjà, il y a une méthode qui a été développée pour les cycles 1 et cycle 2 dans les écoles pour du coup que les enseignants et enseignantes proposent du galop à hauteur de 15 minutes par jour à peu près. Donc c'est très peu, mais c'est un peu de l'initiation comme on pourrait le faire en anglais pour les petites écoles. Et en plus de ça, il y a quand même une option galop au collège et au lycée. Aujourd'hui, à l'université, on a aussi une UEL galop qui existe et qui grandit d'année en année. Donc on a vraiment pas mal d'espoir sur l'ouverture de classes en galop, l'ouverture peut-être de classes en immersion, mais en tout cas de classes bilingues en galop.
Et il y a aussi du coup une méthode de galop qui est sortie pour les adultes récemment via l'office public, via pardon l'office du galop. Est-ce que selon toi toutes ces initiatives sont suffisantes et
Alors, suffisante, peut-être pas à ce point-là, parce que ce dont on va avoir besoin, c'est vraiment d'un nombre de locuteurs beaucoup plus important pour avoir de plus en plus de personnes capables de former en gallo. Mais la création de cette nouvelle méthode, en tout cas par Fabien Lécuyer et l'Institut du Gallo, a vraiment donné pour moi un élan à l'apprentissage du gallo, dans la mesure où il y a beaucoup plus de jeunes entre 18 et 25 ans qui se sont emparés de cette méthode justement et qui s'y sont intéressés. Et ça permet d'avoir un outil très propre, très beau, enfin je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais une méthode très belle, très moderne, absolument pas folklorisante, parce que c'est vraiment de ça aussi dont souffle le gallo aujourd'hui, une image un peu vieillotte, mais on a une belle méthode qui permet justement à toutes les générations d'apprendre un gallo moderne, un gallo contemporain, dans lequel on peut parler de tout, y compris d'informatique ou de tout ce qu'on veut, quoi.
Et du coup, toujours pour rester un peu dans cette thématique de l'apprentissage du gallo, le gallo, on sait que ça a été une langue qui n'a pas forcément été écrite tout le temps, et surtout une langue qui a beaucoup de variantes selon les coins où on est dans le pays gallo. Du coup, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on l'écrive, qu'on la standardise un petit peu? Est-ce qu'on perd un peu de son âme, ou est-ce que c'est nécessaire pour que ça perpétue et qu'elle soit transmise, cette langue?
En fait, le gallo, malgré tous les dialectes qu'il y a, parce que, ouais, on va pas se mentir, il y a pas mal de dialectes quand même, entre le nord, le sud et l'ouest, on va pas parler exactement de la même manière, ça reste une langue assez unifiée quand même. Assez unifiée, et en plus de ça, il y a quand même des différences assez marquées avec les langues qui sont présentes autour, les langues d'oïl qui sont présentes autour, le normand, le méniot, l'angevin, le poitevin. Même si la limite entre la Haute-Bretagne et les autres langues d'oïl, c'est pas une ligne bien nette, c'est plutôt un dégradé. Une personne qui parle gallo à Poincé va comprendre quelqu'un qui parle angevin à... inversement, une personne qui parle gallo à Châteaubriant va comprendre une personne qui parle angevin à Poincé, parce que la langue est très proche, il y a quand même un beau dégradé. Mais voilà, le fait de standardiser, de créer une méthode en gallo plus ou moins standard, qui pourtant présente aussi des marques dialectales dedans, en plus de ça, avoir une écriture standardisée, ça permet notamment à tous les locuteurs et toutes les locutrices de gallo de s'y retrouver, de pouvoir lire en gallo, de pouvoir écrire en gallo, que tout le monde puisse comprendre. Et en plus de ça, ça permet aussi de fixer un standard qui servira après pour les médias, pour la transmission, pour tout. Parce que dans les gens qui veulent apprendre le gallo, il n'y a pas que des personnes originaires de ce pays-là. Il y a aussi des gens, enfin, je sais que dans mes cours au Cercle Celtique de Rennes, il y a une personne qui vient de Paris, il y a des personnes qui viennent de Nantes, des personnes qui viennent de Rennes, enfin... C'est très divers, on ne peut pas se permettre d'enseigner à tout le monde la manière de son coin, donc, surtout que je ne suis pas calé là-dessus. Donc, voilà, un standard, ça permet aussi de favoriser l'enseignement.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, pour s'intégrer en Bretagne, essayent d'apprendre les langues comme le gallo notamment et le breton. Et du coup, peut-être un dernier conseil pour nos auditeurs et auditrices qui veulent apprendre le gallo. On a déjà mentionné quelques solutions pour s'y mettre, mais est-ce que dans le coin, près de Rennes, tu as des petits tips vers qui se tourner?
Pour les étudiants et les étudiants de Rennes 2, c'est assez simple. Il y a l'UEL Gallo qui existe. Voilà, faut contacter soit Michael Genevet, soit Régis Auffray. Donc, c'est très facile à faire. C'est à hauteur de 2 heures par semaine. Donc, c'est très cool. Et puis... c'est vraiment très, très, très pédagogique, très facile d'accès pour les débutants complets ou pour les personnes qui sont déjà dedans. Et pour les personnes qui n'auraient pas le temps forcément d'être en UEL gallo, il y a le Cercle Celtique de Rennes qui est à 2 pas d'ici, à la Ferme de l'Harpe, qui propose des cours de gallo aussi. Le jeudi soir de 18h à 19h en visio, et le jeudi soir aussi de 19h à 20h dans le même coin vers la Ferme de l'Harpe. Donc voilà, faut pas hésiter à contacter le Cercle Celtique de Rennes.
Super, merci beaucoup Antoine.
Avec plaisir.